BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà votre deuxième partie de De quoi je me mêle. Un grand merci d'être là et de nous écouter régulièrement et d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous télécharger ou à nous regarder à la fois sur BFM Business le week-end mais aussi sur YouTube ou sur l'appli RMC BFM Play. On va maintenant poursuivre l'histoire Starlink avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel.
Bonjour François.
Lionel qui, vous le savez, régulièrement dans De quoi je me mêle vient nous parler de tech et de réseau parce que c'est son kiff et nous aussi on adore ça. Et là en plus on va s'ouvrir un deuxième chapitre concernant Starlink. On en avait parlé il y a un petit peu plus d'un an.
C'est ça.
D'ailleurs vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo. On va revenir sur Starlink parce qu'en un an il s'est passé, mais plein de trucs,
oui,
incroyables, et ça vaut bien une petite mise à jour.
C'est clair, Starlink continue de nous surprendre, et à plusieurs niveaux. On avait parlé ensemble du lancement, puisqu'il y a plus d'un an, on commençait vraiment à en parler, tu avais un nombre de satellites
orbite. Tu pouvais t'acheter le système, etc.
Voilà, c'est ça, ça devenait vraiment quelque chose d'un petit peu plus grand public. Et c'est vrai que là, en un an, ils ont fait des progrès monstres. Si tu veux retenir quelques chiffres, le nombre de satellites en orbite actuellement, il est à cette semaine à 6078. Donc quand on en parlait, on était un petit peu moins de la moitié. On était dans les 3000.
Okay.
Tu as 99 pays couverts. Le dernier en date, c'était il y a une semaine, c'est la République de Fidji dans le Pacifique Sud. Ils ont 3 millions de clients. Donc un beau développement en l'espace de 3 ans. En 2024, tu as eu 38 lancements. Attends, on est fin mai. Tu vois ce que je veux dire, ouais. On n'est pas non plus. Donc 38 lancements.
Et c'est pas 38 satellites. Hein. À chaque fois, c'est plusieurs dizaines.
C'est ça. 23 minimum par batch.
Ouais,
je te laisse faire le calcul, c'est incroyable.
D'ailleurs, Elon Musk en avait parlé, je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers de satellites à terre, non ?
Le plan d'origine, oui, il était à plusieurs dizaines de milliers.
Alors peut-être que ça a évolué depuis, parce que ça l'a coûté une fortune, évidemment.
Ce qui les sauve, et pourquoi ils arrivent à avoir cette cadence, c'est le fait que tu peux réutiliser les roquettes, hein. Le Falcon 9, effectivement, tu l'envoies, comme on le voit, pour ceux qui nous regardent, les images derrière nous, en 8 minutes, ils ont envoyé les 23 satellites, et puis le lanceur, il est retombé, il est redescendu.
Ouais, c'est ça.
Bah, ça, c'est imparable.
Ouais. D'ailleurs, c'est comme un ascenseur, finalement.
Le disait lui-même à Vivatech la semaine dernière. Mm-hmm. Très simplement, il disait, mais je ne comprends pas, quand vous prenez votre voiture pour aller au travail, vous ne la jetez pas.
Mm-hmm.
Moi, je fais pareil avec mes fusées.
Mes fusées. Donc, tout ça dans un contexte évidemment de très haut débit parce que on se dit finalement en France il y a la fibre donc si on regarde un peu notre nombril on n'a pas forcément besoin de Starlink
j'ai envie de te dire quand même parce que si tu regardes les derniers chiffres de l'Arcep au jour d'aujourd'hui tu n'as que 27 départements en France il y a toujours 27 départements 27% des départements qui ont un taux de couverture fibre qui est entre 50 et 80. Et quand je te dis le taux entre 50 et 80%, ils sont plus près de 50 que du 80, si tu vois ce que je veux dire.
Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont sur le bas-côté de la route, ils sont soit encore en ADSL,
ou qui n'ont pas la chance d'avoir eu un raccordement.
Mm-hmm.
Là, je te parle vraiment des raccordements. C'est-à-dire, ce n'est pas les abonnements. C'est-à-dire, c'est l'état du réseau en France. Donc, on a 70 départements qui sont à plus de 80%, donc ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que tu t'en doutes bien, c'est toutes les zones qui sont très rurales, ils sont un petit peu laissés de côté. Et les zones à forte densité sont très bien desservies. Et c'est un peu la logique. C'est ceux qui seront les plus la densité est faible, moins c'est servi en premier. Donc ce besoin de connectivité alternative, parce qu'on en est là, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser la fibre. Dans une époque où on a commencé à retirer le cuivre, je le rappelle, le basculement
commence
obligatoire.
Petit à petit à déconnecter la DSL.
Cette solution Starlink, finalement, elle commence à avoir du sens d'un point de vue utilité. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de débit, c'est loin d'être ridicule, parce que là aussi, ils ont fait des progrès. Il y a le nombre de satellites qui augmente, bien évidemment, tu as la couverture, mais tu as aussi le débit qu'on peut en tirer. Aujourd'hui, ils t'annoncent une vitesse de download qui est compris au minimum entre 50 et 220 mégabits. C'est quand même... C'est loin d'être ridicule.
Oui, c'est du haut débit.
On est sur du haut débit. En upload, tu es forcément moins 10 ans, bien sûr, mais tu t'approches des 20-25 mecs. Donc, on est à peu près au niveau où était de la 4G à une époque.
Ouais. Et puis, rappelons quand même aussi l'avantage de ces satellites en orbite basse, c'est la latence. On se retrouve avec une latence qui est alors qui n'est pas similaire à la fibre, hein, parce que rien ne vaut la fibre, on est d'accord. Mais quand même, on est à quelques dizaines de millisecondes, ce qui est incroyable par rapport aux satellites géostationnaires.
Alors, géostationnaires, oui, là, c'est un autre délire, parce qu'ils sont très très loin, donc le temps qu'ils mettent à arriver, cette techno, elle est dépassée aujourd'hui. Mais ils avaient annoncé au tout démarrage, avant même que ce soit dans les taxes aujourd'hui, ils annonçaient une latence entre 20 et 60. Aujourd'hui, elle a été mesurée, ils ont fait une annonce, encore une fois, en tout début d'année, cette année, ils sont très actifs, Starlink, ils ont réussi à réduire la latence moyenne à 33 millisecondes.
Pas mal.
Et leur plan, c'est d'aller chercher du 20. Et ils ont Alors, pourquoi ils vont y arriver? Parce qu'en fait, ce qui te génère ta latence, si tu veux, c'est la communication avec les satellites en orbite et ce qu'on appelle les gateways, c'est-à-dire c'est les stations terrestres qui, elles, sont reliées à un nœud fibre optique.
Parce que comment ça marche, en fait? Tu as des satellites donc, qui sont à quoi, 200-300 km d'altitude, je
non,
crois?
Non, c'est un petit peu plus. Ils sont entre 450 et 600 en fonction des générations.
Ouais. Donc, ils vont choper l'Internet sur une station
ce qu'on appelle une base station terrestre.
Qui est connectée à la fibre.
Qui est connectée, même c'est au-delà de ça, ils sont connectés à un point de présence des opérateurs.
Un point, d'accord.
Tu es directement connecté sur un tuyau Internet.
Ça booste.
Voilà, ça booste. Ces stations-là, en fait, émettent sur les satellites en basse orbite. Et maintenant, ce qui est nouveau dans ce qui est arrivé l'année dernière et cette année, ces satellites, avant, individuellement, ils faisaient tous des allers-retours. Puisqu'il n'y avait pas de technologie de communication. Il fallait bien qu'ils fassent des allers-retours. Depuis deux générations, ils ont rajouté des lasers dans les satellites. Ces lasers, en fait, vont créer un réseau mesh, en Wi-Fi, entre chacun des satellites, et ils vont créer un réseau haut débit entre eux. Ce qui réduit le besoin de communication entre chaque satellite individuel et ses stations terrestres.
C'est incroyable.
Mais alors, là où ça devient très fort, c'est que le débit intersatellitaire, il est entre 100 et 200 gigabits. Je rappelle pour tout le monde que les satellites, ils tournent à 17 000 km/h.
C'est incroyable.
C'est pas anodin. C'est pas quelque chose de fixe.
Donc en fait, il se crée comme un nœud entre chaque satellite par le laser. Il fait qu'ils sont tout le temps connectés les uns entre les autres.
Alors dans ce backhaul, en fait, tu as à la fois la donnée, mais il y a aussi de l'intelligence. C'est ce qu'ils utilisent aussi pour pas entrer en collision avec eux-mêmes, savoir qui est où, etc. Il y a beaucoup de choses au niveau du backhaul. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on fait avec les systèmes mesh pour la partie Wi-Fi, avec une base et des satellites. C'est un petit peu le même. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils ont fait entre l'année dernière et cette année.
Et c'est ce qui fait baisser la latence qu'on évoquait.
Ce qui fait baisser la latence, ce qui augmente le débit, ce qui augmente la fiabilité. Je rappelle aujourd'hui, un kit, en plus les prix ont baissé, un kit aujourd'hui coûte 349 €. Donc ça, c'est le prix qu'il faut investir pour avoir l'équipement, donc la parabole terrestre et la box. Bon, malheureusement, c'est toujours en Wi-Fi 5. Alors ça, je ne comprends pas si Elon nous entend.
D'après ce que j'ai compris, il devrait en avoir une nouvelle qui devrait passer en Wi-Fi 6 ou
je sais pas. Voilà, mais aujourd'hui, la parabole motorisée, le produit de base, il est toujours en Wi-Fi 5. Donc, effectivement, les gens qui utilisent ça derrière, ils mettent d'autres solutions alternatives pour sortir et avoir un routeur ou un système Wi-Fi. Et c'est un coût qui est très correct, puisque maintenant, on est à 40 € par mois. Ce n'est plus de la promotion, c'est le coût fixe.
Ouais.
Point barre.
Et pour 40 €, tu as une connexion
Pour quelqu'un qui n'a pas la fibre aujourd'hui et qui est sur de la DSL, c'est une alternative réelle. Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé de ce qui s'est passé des épisodes précédents. Et
oui, vas-y.
Rupture en janvier 2024.
Alors c'est ça, vas-y.
On a donc le premier lancement de satellites équipés avec une nouvelle technologie qui s'appelle le Direct-to-Cell. Donc ça a démarré effectivement en janvier 2024. On est sur des satellites un petit peu plus massifs. Je te rappelle que la masse des précédents, ils étaient à peu près dans les 300 kilos. Là, on est sur des bébés qui font 900 kilos. Et pourquoi?
Ah oui, donc ils sont beaucoup plus gros.
Ils sont beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils intègrent des technologies de communication mobile dans les satellites maintenant pour que ce soit une alternative de couverture avec un téléphone normal. Pas besoin de modification de ton téléphone mobile. On va être capable d'utiliser non seulement ce réseau de satellites pour être connecté à la maison, mais aussi pour connecter son mobile dans des zones où il n'y a pas de couverture.
C'est-à-dire que tu es, je ne sais pas moi, en plein désert, loin de tout, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de 4G, tu n'as pas de 3G, tu n'as rien.
Tu n'as rien ou très peu, ou ça marche très mal. Et notamment aujourd'hui aux États-Unis, comme il le disait, les images le montrent, dans la conférence de presse de lancement, ils ont des zones aujourd'hui qui sont toujours non couvertes.
Enfin, Bien sûr, il y en a plein.
La superficie des États-Unis n'est pas celle de la France, et qu'il y a beaucoup de zones non couvertes.
Tu allumes ton téléphone.
Ouais. Ton téléphone.
Le téléphone va capter le satellite.
C'est ça. C'est-à-dire que ton téléphone.
Alors, Apple le fait déjà pour les services d'urgence. Mais là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir de la data, en fait.
Exactement. Tu auras de la data. Aujourd'hui, ils ont fait tourner des SMS, ils ont fait tourner des MMS. La semaine dernière, il y a une vidéo d'un échange, d'un vidéo call par l'intermédiaire de X, Twitter, qui est fonctionnel. Et donc, pour que ça fonctionne, là, on revient en 2022. Il y a eu une annonce très importante qui a été faite, mais qui, à l'époque, finalement, est un peu passée sous le radar parce que Starlink en était à ses débuts. En août 2022, il y a SpaceX et T-Mobile qui ont annoncé un partenariat. Pourquoi ? Parce que T-Mobile souhaite couvrir ces régions non couvertes, ne va pas aller développer
des
antennes
partout,
et des émetteurs traditionnels parce que ça coûterait une fortune d'aller couvrir et de câbler, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ces régions-là. Donc, du coup, leur idée à l'époque était de dire, voilà, on va utiliser l'infrastructure Starlink, je vais leur donner une partie de ma bande de fréquence, je vais leur laisser le droit de l'utiliser et on va équiper ces satellites en supplément de ce qu'ils font déjà, hein, parce que tout ça, ça vient on top des bandes traditionnelles et de la partie connectivité de la maison. On va aller aussi les équiper de ces fameuses antennes LTE traditionnelles dans ce satellite. Alors, c'est pour ça que là, le satellite, il s'est pris un petit peu. On est passé sur des modèles.
Imagine la
plus
puissance, parce que là, c'est à 500 km d'altitude. Donc, en fait, ça veut dire que ton mobile arrive à recevoir des données et à en émettre.
C'est ce que disait Elon Musk dans cette conférence de presse que je vous engage à regarder. Technologiquement parlant, ils ont fait quelque chose qui est fondamentalement différent. Je rappelle qu'une antenne 4G terrestre, elle ne bouge pas. Je rappelle que les satellites,
ils bougent
tout le temps à 17 000 km par heure. Donc, en fait, il y a une complexité technologique.
C'est une succession de satellites, en fait, quand on passe un coup de fil ou quand on a de la data.
C'est jamais le même, en fait. Ils se mettent entre eux. Mais donc là, non seulement ils ajoutent des antennes qui sont fantastiques, c'est-à-dire qu'ils disaient dans la conférence de presse qu'en termes de technologie, c'est sans doute les antennes les plus sophistiquées qui existent aujourd'hui. Parce que dis-toi bien que ton mobile sur Terre va capter une antenne satellitaire. Mais lui, il ne se rend pas compte. Pour lui, c'est une antenne.
Oui, c'est une antenne, bien sûr.
Normale, qui
ne
voit pas
kilomètres.
La différence. Voilà. Ouais. Sauf qu'elle est à 450 ou 500 km au-dessus de ta tête et qu'elle permet en fait de restituer ce réseau LTE. Et donc là, comment ça fonctionne ? De la même manière, on a nos fameux satellites qui sont connectés toujours à une station terrestre qui elle-même va être connectée directement cette fois-ci à cet opérateur. Puisque là, on est dans le cadre d'un partenariat entre T-Mobile et SpaceX. Et ce qui est très marrant, c'est que dans cette conférence de presse, ils ont même été plus loin. T-Mobile a encouragé les autres fournisseurs d'accès dans le monde en disant « Écoutez, je suis le premier. Moi, je suis très content de faire ça pour les États-Unis, mais on ne veut pas s'arrêter là. Pensons à tous les
pour
pays,
tous les opérateurs locaux
dans le monde.
Bien sûr,
essayez de. Est-ce que vous avez un intérêt à dupliquer ce modèle qui aujourd'hui est nouveau et qui n'existait pas avant ? La techno est là, elle fonctionne. Et donc là, donc maintenant, tu as assez pour donner une idée de capacité. Ces satellites sont capables d'absorber de 1000 à 2000 appels en simultané. Voix. Je parle d'un appel traditionnel jusqu'à 100 000 SMS.
Ouais, donc c'est
et donc là maintenant, il y a des capacités vidéo parce que la semaine dernière, ils montraient très clairement que c'était technologiquement possible de faire des appels vidéo. Donc là, on est.
Donc il va monter en puissance sur le lancement de ces nouveaux satellites.
Oui, parce que les 6 premiers, c'est pas vieux, hein, ça a été lancé en janvier 2024. Et là, maintenant, ils viennent d'en rajouter un petit peu. On est à peine à 38. C'est le début. Ouais. Donc, dans la constellation Starlink.
Ça n'a pas marché partout d'ailleurs.
Aujourd'hui, c'est que aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Et c'est que sur le réseau de T-Mobile. Ouais. Voilà. Alors, il y a d'autres pays qui ont déjà annoncé que ça les intéressait. Tu as le Canada, tu as le Japon, tu as l'Australie, tu as la Suisse, tu as la Nouvelle-Zélande, tu as le Chili, tu as le Pérou. Et ça continue tous les mois de s'ajouter parce que pour eux, c'est une alternative réelle aux technos traditionnels.
Merci Lionel, c'est passionnant tout ça. Voilà. Starlink qui va super vite. À noter que bon, il y a un concurrent qui est dans les starting blocks, c'est Kuiper,
bien sûr,
d'Amazon,
qui vient de finir sa bêta là avec ses deux satellites et ils sont en train de les redescendre. Donc, c'est le prochain en ligne qui, a priori, voilà, peut se dire qu'il va lancer une constellation supplémentaire.
La guerre de l'Internet, maintenant, va se jouer dans les airs.
C'est ça. Certain. Elle est en train de se déplacer, en fait.
Ouais, et elle va devenir mondiale, en fait. Parce que...
D'ailleurs, il n'y a pas que Amazon, il y en a d'autres. Mais bon, on va dire que Starlink a quand même une longueur d'avance phénoménale.
Ouais. Ouais, c'est dingue. Merci beaucoup, Lionel. Passionnant.
Merci à toi, François.
Et merci de nous avoir suivis. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Le petit module bonus qui vous attend, je vous le rappelle, si vous nous écoutez en podcast, voilà, la version audio, quelques minutes supplémentaires avec Anthony et Eric. Et moi, j'aurai le plaisir, bien sûr, de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech & Co.